Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondyblogcentre.fr.
Bondy Blog Café.
Bondy Blog Centre.
Bondy Blog Café. Café.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du Bondy Blog Centre Café. Aujourd'hui, nous allons parler des études sur le genre. Cette émission a été réalisée en partenariat avec Clémence de Radio Campus Angers.
Les droits des femmes et des personnes LGBTI sont de plus en plus abordés dans les actualités. Leurs différentes revendications reposent en fait sur des années de théorie et d'histoire universitaire. Ces connaissances sont regroupées dans un domaine nommé les Gender Studies ou études de genre. C'est un vaste domaine d'études qui permet de montrer, attention, accrochez-vous, que ce que l'on pense être naturel n'est parfois que construction sociale, pour citer le CNRS. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les Gender Studies ne sont pas 100% made in USA. Certes, elles ont fait leur apparition dans les années 70 là-bas. Piqûre de rappel, on était en pleine révolution sexuelle, mai 68, je ne vous apprends rien, et en 69, les émeutes de Stonewall qui ont donné lieu à la marche des fiertés, la Pride. Par naissance des Gender Studies, on parle de leur établissement au rang du domaine de recherche. C'est pour cela qu'on parle d'études, c'est interdisciplinaire. On peut passer par l'histoire, la socio, l'ethnologie, la littérature, voire même la biologie. En France, par contre, on ne parle pas immédiatement d'études de genre. On a un peu peur du féminisme américain, jugé trop radical, et on va préférer se pencher sur les études féminines, par exemple la place des femmes dans l'histoire. Hélène Sixtus fonde d'ailleurs le Centre de recherche en études féminines à Vincennes, donc Paris 8, en 1973, et il y a un doctorat qui est créé en 1974. Cette volonté de s'affranchir des idées américaines est assez amusante. Simone de Beauvoir, avec sa phrase « On ne naît pas femme, on le devient », Claude Lévi-Strauss et sa différence entre nature et culture, Jacques Derrida et le concept de déconstruction, la French Theory, ils sont tous français, et ce sont leurs idées, pour ne citer qu'eux et leurs idées, qui ont donné le « là » à ce décortiquement des rôles genrés aux États-Unis. Les études de genre ne sont en fait que le fruit d'années de circulation des idées. Doucement mais sûrement, on s'intéresse aujourd'hui au genre, plus seulement aux femmes, dans les universités françaises. L'offre de master reste assez limitée. En cherchant bien, on peut miraculeusement tomber sur un fascicule qui liste toutes les formations sur le genre disponibles en France. Et surprise, c'est le fruit d'un travail militant. C'est un manuel qui est proposé par EFIGI, une association créée en 2003 pour mettre en commun les savoirs à destination des étudiants et doctorants-chercheurs en études féministes, genre et sexualité. On retrouve des masters sur Paris, Bordeaux, Lyon, Toulon et aussi à Angers. Parfois c'est en présentiel, des fois c'est en enseignement à distance. Pour le reste des disciplines, l'approche sous le spectre du genre dépend du bon vouloir des professeurs, que ce soit au secondaire ou dans le supérieur, à la différence de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Les études de genre, à quoi ça sert dans la vie de tous les jours? Eh bien, adopter une démarche et une rigueur scientifique dans l'analyse des comportements de notre société. Sans les études de genre, pas de base théorique pour qualifier les violences sexistes et LGBTI-phobes. Encore moins de statistiques pour en mesurer l'existence. Et pas de stats, pas de mesures politiques. Ce n'est pas gagné, la France a encore de nombreuses lacunes sur ces sujets. La méfiance vis-à-vis des études dites importées des États-Unis est toujours là. Elle serait même en contradiction avec la valeur républicaine, d'après M. Blanquer. Un retour de bâton face à la prise de conscience progressive d'une partie de la population, preuve que s'il y a réaction, c'est qu'il y a du changement. Et c'est l'occasion maintenant de vous proposer une revue de presse sur cette actualité qui secoue les universités depuis octobre.
Dans son édition du 3 novembre, le quotidien Libération publiait une tribune intitulée « Intersectionnalité, Blanquer joue avec le feu ». Rose-Marie Lagrave, sociologue féministe spécialiste des études de genre, s'y disait choquée par l'offensive de Jean-Michel Blanquer contre l'intersectionnalité dans le journal du dimanche du 25 octobre. En effet, le ministre avait déclaré « Il y a un combat à mener contre une matrice intellectuelle venue des universités américaines et des thèses intersectionnelles qui veulent essentialiser les communautés et les identités aux antipodes de notre modèle républicain qui, lui, postule l'égalité entre les êtres humains indépendamment de leurs caractéristiques d'origine, de sexe, de religion. » Ce à quoi Rose-Marie Lagrave répondait en disant « Stigmatiser l'intersectionnalité au motif de sa genèse états-unisienne est aussi ridicule que de reprocher à la philosophie d'Hegel sa matrice allemande. Si le vaccin contre la Covid-19 a une matrice américaine, va-t-on s'en passer pour autant ? L'étude des genres n'est cependant pas si facile pour les étudiants américains. En France, la nouvelle est passée relativement inaperçue, et c'est le Media Slate qui nous l'apprend. Je cite. Le 22 septembre dernier, le président américain signait un décret interdisant aux administrations fédérales, à l'armée et à leurs contractuels privés de dispenser certaines formations de sensibilisation au racisme et au sexisme. Lesquelles ? Selon le texte de l'ordonnance, celles véhiculant des idéologies destructrices, profondément anti-américaines, promouvant des stéréotypes racistes et sexistes et désignant des boucs émissaires en enseignant qu'une race ou ethnicité quelconque est intrinsèquement raciste ou mauvaise. De son côté, l'Obs décrypte longuement cette sortie de Blanquer déjà évoquée tout à l'heure dans un article paru le 26 octobre 2020 et intitulé « Thèse intersectionnelle, Blanquer vous explique tout mais n'a rien compris ». L'article est plein de références plus ou moins bonnes qui ont cependant le mérite d'aborder le thème de ce que notre ministre nomme les thèses intersectionnelles. Je vous propose à présent d'écouter Valérie Martin, professeure documentaliste dans un collège du réseau d'éducation prioritaire d'Orléans. L'année dernière, elle a obtenu son diplôme universitaire d'études sur le genre.
Alors, c'est un DU d'études sur le genre. C'est-à-dire que c'est une approche un peu transversale au niveau des disciplines universitaires. T'as surtout une approche sociologique, mais aussi une approche historique, une approche qui peut être économique, scientifique, sur, on va dire, la notion de genre, c'est-à-dire l'aspect social de les rôles sociaux de sexe. C'est ça, c'est cette approche-là qui est transversale et qui touche à pas mal de disciplines universitaires. Donc, un diplôme universitaire, c'est quelque chose que tu passes en une année universitaire. Il y a quelques endroits en France qui proposent des études sur le genre. Il y en a de plus en plus, mais au départ, ça nous vient des États-Unis, en fait. Moi, j'ai passé une année très intéressante. Et alors, je pensais savoir déjà beaucoup de choses, alors sans prétention, mais déjà m'être approprié pas mal ces questionnements-là, par mon implication, on va dire, mon implication militante féministe de longue date. Donc effectivement, j'avais quand même lu pas mal de choses, j'avais réfléchi sur pas mal de sujets. Mais c'est vrai que de se poser et de prendre le temps de vraiment d'élargir ces lectures, de les mettre en regard les unes des autres, c'était vraiment très intéressant. Alors j'étais obligée de faire des choix, hein, parce qu'évidemment, en une année, je l'ai dit, hein, le champ des études de genre, il est très très large, hein, il est autant historique que dans la science dure, entre guillemets, que dans le champ sociologique. Donc, il a fallu que je fasse des choix. Moi, c'est vrai que j'ai fait le choix de vraiment travailler davantage sur les questions liées à l'éducation, parce que c'est quelque chose qui me concerne sur le champ professionnel. Mais j'ai fait le choix aussi, par exemple, de m'intéresser à l'histoire des féminismes et l'histoire des femmes, parce que je suis aussi militante syndicaliste, et que c'était quelque chose qui m'interrogeait de longue date, de connaître, d'en savoir un peu plus sur la place des femmes, notamment dans les syndicats, et de comprendre pourquoi on en est là actuellement. Et puis, j'ai travaillé sur égalité homme-femme dans les champs professionnels.
Mmh, d'accord.
Ce qu'on appelle l'égalité professionnelle. Mmh. Voilà, donc ça, c'est les trois thématiques que j'ai souhaité privilégier. Après, évidemment, j'ai envie de te dire que c'est comme toutes les problématiques sociales, c'est-à-dire que ces différents champs, les différents thèmes ne sont pas hermétiques entre eux, évidemment, qu'ils se répondent les uns les autres. Hein, ils se croisent, bien entendu.
Tu es professeur documentaliste. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire un diplôme universitaire sur le genre, d'études sur le genre ?
Alors, parce que ça n'a pas seulement trait à mon métier, mais oui, ça a en partie une résonance par rapport à mes pratiques professionnelles, parce que je me questionne sur les rapports filles-garçons, notamment à l'école, puisque moi je suis enseignante, que je suis aussi formatrice auprès de ceux et celles qu'on appelle les référents égalité filles-garçons dans les établissements. et qu'il me semblait important d'approfondir mes connaissances sur le sujet qui étaient jusqu'ici centrées sur une approche militante et féministe. Alors, j'ai envie de dire que les deux se nourrissent, hein, parce que les références, entre guillemets, de la littérature scientifique sur le genre sont à peu près les mêmes, mais j'avais besoin de temps pour me poser et pour approfondir certaines problématiques, notamment celles de l'éducation et de la question de l'égalité dans l'éducation, par exemple.
Qu'est-ce que tu penses de l'offre d'études sur le genre dans les universités françaises?
Alors, je suis pas une spécialiste hein, aujourd'hui de l'offre. En tout cas, ça reste finalement assez peu répandu si on compare, encore une fois, je l'ai dit, aux États-Unis, mais ça commence aujourd'hui à grandir. Par exemple, je crois que c'est à Paris aussi que là, récemment, il y a eu un master d'études sur le genre qui s'est ouvert l'année dernière, non sans quelques résistances. Il faut quand même le dire que, en fait, à chaque fois, il y a eu des résistances universitaires, une sorte de mépris aussi à l'encontre de ces études. Donc, il y a une offre hein, de master, de DU, qui est un petit peu, pour l'instant, on va dire, un petit peu confidentielle, mais qui tend à s'accroître. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand, par exemple, on habite à Orléans et qu'on a envie de faire de telles études, eh bien, il faut passer par le distanciel. De toute façon, là, c'est la règle vu le contexte sanitaire. Mais voilà, il y a quand même cette réalité-là que c'est compliqué parfois. Et puis surtout, il faudrait que ce soit des études qui soient reconnues aussi dans le champ de la formation professionnelle, parce que oui, ça a des débouchés forcément dans le champ professionnel. Donc voilà, il faudrait que ce soit reconnu, que ces études soient reconnues à leur juste place et à leur juste valeur.
C'est quoi les débouchés professionnels dont tu parles?
Eh bien, par exemple, tu peux être chargé de mission. Tu peux être chargé de mission dans des collectivités territoriales ou au sein d'entreprises, enfin voilà, avoir un rôle d'expertise et de conseil auprès de tout collectif qui voudrait s'engager sur ces questions d'égalité. Puisque aujourd'hui, il y a quand même une obligation hein, de prendre en charge ces questions d'égalité, que ce soit dans le monde de l'entreprise, puisque c'est aussi inscrit dans le Code du travail, par exemple. Mais si je prends l'exemple de l'éducation nationale, il y a obligation de travailler aujourd'hui à l'égalité filles-garçons dans les établissements scolaires. Donc pour ça, si tu veux, ça s'invente pas. C'est pas des choses qu'on fait au ressenti. Tout le monde a des opinions sur les filles et les garçons, mais on est au-delà de l'opinion. C'est qu'à un moment donné, c'est quel savoir on va mettre en œuvre pour avoir une analyse de la situation. Déjà, de savoir ce qui se joue, d'avoir une prise de conscience éclairée, une réflexion autour de ça, et puis en face, essayer de réfléchir à des outils de transformation. Donc pour ça, ça ne s'improvise pas, en fait. Et c'est vrai que on est sur un terrain un petit peu glissant, parce que, comme je te le disais, tout le monde a des opinions sur ah bah oui, et puis aussi, y compris des idées reçues, hein, y compris ah bah oui, les filles sont plutôt comme ça, les garçons, c'est ah bah oui, c'est comme ça. Non, en réalité, il faut qu'on ait une approche beaucoup plus distanciée, critique, et puis nourrie de toutes les recherches qui se font, parce qu'il y a de la recherche universitaire, sociologique, qui se fait sur ces questions-là. Aujourd'hui, elle reste fort méconnue. Donc, quand je parle de débouchés, par exemple, professionnels, eh bien, ça peut être que, une fois qu'on a ces connaissances, hein, qui sont évidemment toujours à approfondir, mais quand on a ces connaissances, eh bien, aussi, on peut fournir de l'expertise et du conseil.
Je vous propose maintenant une pause musicale. Leave it. Nous allons à présent écouter le témoignage d'une autre professeure documentaliste qui travaille dans un collège rural à Tigy.
Ça fait plusieurs années que je me définis comme féministe. Ça a commencé, je pense déjà, par mon éducation, avec des parents très ouverts. Et puis un papa qui nous disait tout le temps, je suis une famille avec trois sœurs, et un papa qui nous disait tout le temps... faut pas que vous soyez dépendante des hommes. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis après, c'est aussi des personnes dans ma famille qui m'ont influencée et forcément les rencontres que j'ai pu faire au fur et à mesure. Dans la société, l'engagement féministe, c'est déjà par l'engagement associatif, pas forcément dans des associations féministes, mais notamment dans ce qui est engagement de transition citoyenne. Puisque c'est des mouvements qui sont vraiment pour réformer et changer la société, et que pour moi, la lutte contre le changement climatique, pour refaire les fondements de notre société, la lutte contre le capitalisme qui nous a un peu tout bousillé, c'est la même que celle contre le patriarcat, et que les ressources sont les mêmes, en fait. C'est une lutte... À la fois, il faut être diplomate, parce qu'on touche sur l'identité et qu'on vit, hommes et femmes, ensemble, et que tout le monde a y gagné hein, dans le féminisme. Pour moi, féminisme, quand on me dit « Ah non, mais moi, je suis pas féministe, je veux juste l'égalité », bah si, t'es féministe, en fait, parce que l'égalité, c'est ça. Enfin, le féminisme, c'est juste vouloir l'égalité. Donc oui, c'est une lutte, parce qu'on voit partout que en ce moment en Europe, aux États-Unis, les droits des femmes, c'est pas vieux hein, le droit de vote, droit d'avoir son compte en banque, etc., c'est quand même vraiment récent. Donc des fois on parle d'autres pays en disant oh là 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 là, cela c'est pas beau ce qui se passe chez eux par rapport aux femmes, mais nous on a encore du chemin à faire, et notre chemin nous il est pas si vieux que ça. Et puis, ce qui nous arrive en face, là, en termes de crispation identitaire, en termes de peur, en termes de retour à un ordre qui serait l'ordre naturel, tu vois, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, la peur de certains de perdre du pouvoir et le retour à des valeurs qui seraient des valeurs refuge. Bah, c'est clair que le féminisme, là, il faut être extrêmement vigilante et vigilant sur ce sujet. Moi, j'aime bien dire aux hommes qu'ils peuvent être pro-féministes, tu vois, parce que c'est vrai que ce qui est important dans n'importe quelle lutte, hein, je rapproche souvent le féminisme des luttes contre le racisme, par exemple, où il y a des choses aujourd'hui qu'on trouve très politiquement incorrectes et absolument inacceptables. Quand on dit, les Noirs ou les Arabes, ceci, naturellement, ça nous choque et c'est absolument normal. Mais aujourd'hui, dans la société, quand on parle des femmes, naturellement, ceci ou cela, ça choque pas beaucoup de monde, en fait. Ça choque pas beaucoup. Donc c'est quand même les premières concernées sont des femmes. Donc, qui mieux que les femmes peuvent parler de l'oppression, des discriminations, etc. Maintenant, c'est clair que les hommes ont leur place et sont absolument indispensables, parce que l'idée, c'est pas de se construire les uns contre les autres. C'est que tout le monde a à y gagner. Mais il faut aussi, accepter, au fond, de partager pour certains, et pour certains, ça c'est pas simple, hein, de dire l'égalité, ça veut dire que y a des femmes qui arrivent un peu sur notre terrain, et ça interroge beaucoup de choses. Les hommes sont aussi pour moi beaucoup victime de tous ces discours sur la virilité, qu'est-ce que c'est qu'un homme, un vrai, qu'on retrouve aussi chez les femmes. Il y a des femmes qui vont dire « Ah ben non, mais moi, en effet, je veux un homme, un vrai. » Mais parce qu'on est tous construits, on a tous baigné là-dedans, on a tous et toutes été façonnés par... par ce genre de choses. Donc évidemment que les hommes ont à prendre part à ces réflexions, même si je sais que c'est compliqué parce que j'entends souvent, et je peux le comprendre, « Ah mais aujourd'hui, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire, on se sent mis en accusation », notamment de la part d'hommes qui sont justement des hommes assez égalitaires dans leur pratique au quotidien, et qui se sentent agressés. Bon, bah oui, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'homme? Je pense qu'en tant qu'homme, il y a aussi un chemin à faire là-dessus pour l'égalité. Même en tant que, je sais pas moi, blanc occidental, on a nous-mêmes notre chemin à faire sur l'égalité sans se sentir tout le temps accusé, mais on doit quand même réfléchir. Et bah, en tant qu'homme, on doit aussi réfléchir sans se sentir tout le temps agressé. Moi, dans mon combat féministe, je discute avec plein d'hommes, je m'entends évidemment très bien avec plein de monde, hommes ou femmes, mais je ne peux pas passer mon temps à rassurer non plus les hommes. Voilà, j'ai mon énergie, il faut que je la mette aussi dans autre chose. Donc je fais assez confiance à l'intelligence des mecs que je connais pour qu'on discute et puis qu'ensuite ils fassent leur propre chemin de questionnement, parce qu'on se questionne sur... le capitalisme, la transition et tout ce qu'on a besoin de changer pour ne pas peut-être sortir de tout ce merdier et en tout cas qu'après ce sera mieux. Pour moi, le féminisme, c'est pareil, quoi. Faut aller attaquer le mal à sa racine. Et je dis pas le mal M-A-L-E. Hein.
Voilà. On a bien compris. On a bien compris. Merci Cécile.
Alors, l'égalité filles-garçons, ça serait que dans les faits, à la limite, qu'on soit fille ou garçon, de toute façon, ça ne change rien à ce que l'on peut faire et aux possibles qui nous sont ouverts. Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est déterminant, surtout quand on regarde notamment au niveau des élèves tout ce qui est orientation, métier pour plus tard, on se rend compte qu'aujourd'hui encore, filles et garçons, ça prend une place déterminante pour l'orientation. Et l'égalité, ce serait qu'en fait, ça ne soit même plus un facteur, pas plus que d'avoir, d'être grand, d'être petit, d'avoir les cheveux blonds, les cheveux roux, que ce soit plus un facteur déterminant. Et aujourd'hui, ça l'est encore. Ce qui est compliqué, et c'est pour ça, moi, que je reprends des études sur le sujet, c'est que justement, moi je distingue mon activité de militante féministe associative de mes interventions auprès des adolescents. Parce que justement, c'est un public en construction et que moi, mon rôle, c'est pas d'arriver et d'asséner de nouvelles vérités ou ce genre de choses. Mon rôle, c'est de les questionner, de questionner aussi les adultes, ça c'est au niveau de l'équipe, ça c'est autre chose, mais c'est de les questionner et de pas non plus les déstabiliser plus qu'ils ne... c'est vrai que c'est des périodes qui sont compliquées. On est souvent très étonnés de... dès qu'on provoque le débat et qu'on leur amène des choses, justement, c'est un public qui est très, très intéressant. Et c'est essentiel de travailler là-dessus, parce que notamment pour leur identité, leur relation amoureuse, leur relation avec la société autour d'eux, leur métier plus tard, c'est vraiment des choses qui sont importantes, parce que les injonctions, elles pèsent énormément sur les filles, puisque malgré tout, dans la société, c'est encore aujourd'hui, entre les deux, le public qui a... qui souffre de plus de discrimination, mais les injonctions, elles pèsent aussi sur les garçons. Elles pèsent sur les deux, en fait. Mmh. Alors moi, mon rôle de référente, il commence tout juste depuis cette année. Et c'est vraiment quelque chose qu'on réfléchit avec les collègues de façon plus large, avec le CESC, là, le Comité d'éducation, santé, citoyenneté, mais qui, sur ce que tu me dis sur orientation sexuelle, etc., et aussi travailler avec des associations qui interviennent depuis plusieurs années dans l'établissement, aussi avec les collègues de sciences, etc. Et ça, pour moi, pour relier ça aussi à égalité filles-garçons, et ce qu'on appelle, qui est parfois polémique, féminisme, C'est vraiment lié parce que c'est travailler sur les ressorts de la société pour que chacun et chacune puisse se sentir plus libre, donc avec moins de discrimination justement quand il y a les orientations sexuelles et plus, voilà, plus de liberté pour les ados. Et puis pour travailler sur toutes ces choses aussi qu'on transmet nous-mêmes, toute cette culture qu'on a et qui est très, c'est très difficile de s'en défaire. Et donc l'intérêt, c'est d'aller chercher c'est quoi les ressorts, c'est quoi les non-dits, c'est quoi ce qui nous semble évident, et le fameux truc c'est naturel pour les garçons, c'est naturel pour les filles, et d'aller creuser tout ça pour que on mette à jour les ressorts de la société et qu'on puisse un petit peu jouer dessus.
J'ai pas compris, qu'est-ce qui est naturel ?
Justement, souvent, notamment sur l'orientation sexuelle, on a souvent le discours, un homme, ce qui est naturel pour lui, c'est ça, une femme, ce qui est naturel pour elle, c'est ça, les filles, c'est naturel, je sais pas, moi, les filles sont naturellement plus douces, plus ceci, plus cela, les garçons sont naturellement plus forts, donc on a des injonctions, en fait, qu'on cache, sans s'en rendre compte, sous des aspects naturels. Donc on avait vraiment une vision naturalisante. Et quand on commence à travailler un petit peu sur comment tout ça existe, on s'aperçoit que tout ça s'est construit. Et que non, il y a plein de garçons, de filles qui naturellement ne sont pas forcément comme ça. Et que tout l'enjeu, c'est d'aider chacun et chacune à se sentir mieux. Et à ne pas avoir ces injonctions, justement, qui sont des choses qui sont construites par la société.
Donc le féminisme, c'est interroger la nature du genre, en quelque sorte, c'est ça, être féministe ?
Alors le mot genre, c'est pas un concept qui est très facile à manier, mais c'est interroger, oui, ce qu'on nous explique comme étant naturel, que soi-disant on pourrait pas interroger, hein, les femmes sont douces et sont reliées avec la lune, et les hommes sont forts et sont reliés avec le soleil, donc on a l'impression que comme ça il y a plein de choses qui nous permettent d'interpréter le monde et qui sont évidentes, et en fait pas du tout, parce qu'en plus derrière tout ça, non seulement on n'est pas si différent que ça, et puis en plus, surtout, aujourd'hui, il y a des valeurs qui sont associées au masculin qui sont supérieures aux valeurs qui sont associées au féminin. Donc non seulement on nous met dans des catégories différentes, les hommes de Mars et les femmes de Vénus, mais en plus, sous-entendu, Mars, c'est quand même vachement mieux que Vénus. Donc l'enjeu, c'est un petit peu d'interroger tout ça. On reprend un diplôme interuniversitaire sur le genre. Voilà. Donc c'est un diplôme qui se fait à l'université de Rennes 2, qui se fait par correspondance. On est avec une amie à reprendre ça, donc on espère qu'on va, enfin par correspondance c'est classe virtuelle, voilà, c'est pas simplement des dossiers, hein, on a vraiment une classe. Que dire sur ce sujet alors qu'il y a plusieurs options?
C'est assez neuf aussi cette filière. Alors, depuis quand elle date ?
Alors, les études de genre, ça fait quand même quelques dizaines d'années, peut-être 20-30 ans que ça existe, notamment aux États-Unis. C'est un peu plus récent en France. Alors là, maintenant, je crois que celui-ci, il a peut-être 6-7 ans déjà. Il n'est pas tout neuf. Il n'y a pas que Rennes, hein, y a Paris aussi où il y en a. Et puis là, c'est l'université de Rennes 2, mais qui fonctionne avec Le Mans, Laval, enfin voilà, ils sont plusieurs universités à fonctionner ensemble.
Et qu'est-ce qu'on apprend donc quand on étudie le genre ?
Alors, qu'est-ce qu'on apprend quand on étudie le genre ? Déjà, Alors moi, ce que je trouvais très intéressant, c'est que ça fait quelques années que je me dis, tiens, je reprendrai bien des études, mais qu'est-ce que donc je pourrais faire ? Et j'étais assez tentée par la sociologie pour, pour l'aspect... justement, par rapport à mon métier aussi, je trouve que ce qui est sociologique, c'est vraiment très intéressant. Et puis je suis tombée justement sur ces études-là, en faisant notamment, ça fait 2 ans, enfin c'est la deuxième année là qu'on fait un projet Erasmus avec des collègues au collège sur, donc on est 5 pays, qui s'appelle Alter Ego, tous les métiers sont mixtes. Donc sur comment on travaille notamment pour aboutir à une orientation plus égalitaire, mais ça veut dire travailler beaucoup de choses en amont. Et ce qu'on apprend, il y a à la fois des perspectives historiques, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas nouveau, hein, le féminisme et les études sur le genre. Et puis, il y a des perspectives sociologiques, voilà, avec... Moi, ça me permet, en fait, de structurer des connaissances que je me suis faites moi-même depuis plusieurs années, de les rendre plus cohérentes, d'avoir, voilà, d'ouvrir un petit peu le champ des possibles, et puis d'avoir aussi peut-être un peu plus de légitimité dans mon discours, parce que c'est un sujet qui est vraiment casse-gueule au quotidien, dans son travail, dans la famille. Voilà, c'est un sujet qui est très compliqué, parce qu'on touche à nos identités, à ce qui nous construit depuis qu'on est petit, à ce qu'a construit les générations d'avant. Donc voilà, essayer de formaliser un petit peu, d'approfondir et de structurer, aussi bien sur genre et travail, éducation, construction de l'identité sexuée. Voilà, il y a plein de modules et faut en choisir, faut réussir à faire un choix parmi tout ça. Dès qu'on organise des débats, de toute façon, ils sont très intéressés. Maintenant, éducation à la sexualité... Je pense qu'il y a encore plein de choses, plein de choses à faire. C'est des collégiens, donc en même temps, ils sont pas tous tout le temps au même développement, entre des élèves de 6e et des élèves de 3e. Donc faut trouver le bon moment pour intervenir, c'est toujours la question. Mais oui, évidemment, c'est quelque chose sur lequel ils sont en demande. Moi, je vois dans mon CDI le succès des livres sur la question, ou quand j'affiche des choses, ça permet de discuter. Ce qui est intéressant avec eux, en plus, quand on fait des débats, c'est que souvent, ils sont assez cash. Donc des fois, on peut être un peu choqué, ou on va se dire ils sont pas très tolérants, mais par rapport des fois aux adultes, ils ont une parole qui est moins politiquement correcte, et donc ça permet de discuter et d'aller creuser, d'aller chercher un petit peu avec eux. Donc c'est assez intéressant. Et faut pas que en parler. Par contre, tout ce qui est ces débats-là, ça demande aussi à avoir soi-même réfléchi sur son positionnement pour pas orienter non plus les débats, pour que la parole elle soit vraie. Enfin voilà, ça se fait pas n'importe comment non plus, d'où l'intérêt aussi d'avoir des intervenants qui sont spécialisés sur ces sujets-là, et puis aussi soi-même de se poser un peu des questions sur qu'est-ce qu'on passe comme comportement, sur les réactions qu'on peut avoir, sur ce qu'on peut dire, les petites réflexions, voilà, c'est des sujets qui sont quand même assez délicat, donc faut à la fois en parler librement, mais voilà, faut savoir que nous-mêmes on transporte des choses et que c'est des enjeux de société qui sont aussi pas si simples que ça à aborder. C'est évident que je suis militante. Après, c'est sur la forme, hein. Voilà, on est éducateur, éducatrice, pédagogue, donc on fait attention. Voilà, moi, comme sur n'importe quel sujet, ça va être sur la façon dont on amène les choses. Mais oui, évidemment, au quotidien, c'est incarné, que ce soit sur des fois les petites questions que je vais pouvoir leur poser. Quand on a vu des débats sur la disparition de mademoiselle, par exemple, du terme mademoiselle. Donc ça avait été l'occasion, voilà, moi, évidemment, dans mes positionnements, je vais leur dire aussi que j'interroge un garçon, une fille, que être très réactive, tu disais les insultes homophobes, évidemment, et aussi les insultes sexistes, hein, les réflexions. On parlait avec des collègues des débats sur tenue correcte exigée, et un collègue a évoqué, il faudrait regard correct exigé. C'est ça aussi, c'est-à-dire que voilà, l'éducation, c'est aussi comment on regarde les autres, comment on regarde l'autre, comment on est respectueux, respectueuse. Donc tout ça, évidemment, c'est un positionnement au quotidien qui est affirmé, revendiqué, sur ma façon d'être et ma façon de m'adresser à mes élèves.
Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondi Blog Centre. www.bondibloccentre.fr.
Bondi Blog Café.
Bondi Blog Centre.
Bondi Blog Café.